3 septembre. Chrysanthème est venue aujourd'hui pour la première fois me voir à bord, chaperonnée par Madame Prune et suivie de ma plus jeune belle-sœur, Mademoiselle La Neige. Ces dames avaient l'air très posées, très comme il faut. Dans ma chambre, il y a un grand Bouddha sur son trône et devant lui un plateau de laque où mon matelot fidèle rassemble les menues pièces d'argent qu'il trouvait errantes dans mes habits. Madame Prune, qui a l'esprit tourné au mysticisme, s'est crue là devant un autel véritable. Le plus gravement du monde, elle a adressé au Dieu une courte prière, puis tirant son porte-monnaie, qui était suivant l'usage derrière son dos, attaché à sa ceinture bouffante avec sa blague et sa petite pipe, elle a déposé dans le plateau une pieuse offrande en faisant la révérence. Maintien très digne durant toute la visite. Mais au moment du départ, Chrysanthème, qui ne voulait pas s'en aller sans avoir vu Yves, l'a demandé avec une persistance déguisée très particulière. Et Yves, que j'ai fait venir, s'est montré bien doux pour elle, tellement que j'en ai conçu cette fois un peu de sérieux ennui. Je me suis demandé si ce dénouement assez pitoyable, vaguement redouté jusqu'ici, n'allait pas bientôt se produire. 4 septembre. J'ai rencontré aujourd'hui dans un vieux quartier mort une mousmée tout à fait exquise, délicieusement costumée, fraîche, sur le fond sombre des ruines. C'était tout au bout de Nagasaki, dans la partie très ancienne de la ville. Il y a dans cette région des arbres centenaires, des vieux temples de Bouddha ou d'Amida ou de Benten ou de Kwannon à haute toiture pompeuse, des monstres de granit assis dans des cours pleines de silence où l'herbe pousse entre les dalles. Ce quartier désert est traversé par un torrent étroit au lit profond sur lequel sont jetés des petits ponts courbes aux balustres de granit rongés par le lichen. Toutes les choses qui sont là s'arrangent et grimacent bizarrement comme dans les plus antiques peintures nippones. Je passais à l'heure brûlante de midi et je ne voyais personne, si ce n'est dans les bonzeries par des fenêtres ouvertes, quelques rares prêtres, gardiens de sanctuaires ou de tombeaux, faisant la sieste sous leurs tendelets en gaz bleu nuit. Tout à coup, cette petite mousmée m'apparut, un peu au-dessus de moi, au sommet de la courbure, sur un de ces ponts tapissés de mousse grise, en pleine lumière, en plein soleil, se détachant à la manière des fées éblouissantes sur un fond de vieux temples noirs et d'ombre. Elle retenait sa robe d'une main et la faisait plaquer au bas de ses jambes pour se donner l'air plus svelte. Autour de sa petite tête étrange, son ombrelle ronde à mille plissures, éclairée par transparence, faisait une grande auréole bleue et rouge bordée de noir, et un laurier rose chargé de fleurs, poussé entre les pierres de ce pont, s'étalait à côté d'elle, baigné lui aussi de soleil. Derrière cette jeune fille et ce laurier bleu fleuri, tout était repoussoir obscur. Sur la jolie ombrelle rouge et bleue, de grandes lettres blanches formaient cette inscription qui est en usage pour les mousmées et qu'on m'a appris à connaître. « Nuage, arrêtez-vous pour la regarder passer. » Et il en valait la peine, en effet, de s'arrêter pour cette précieuse petite personne d'une japonnerie si idéale. Cependant, il n'eût pas fallu s'arrêter trop longtemps et se laisser prendre. C'eût été encore un leurre. Poupée comme les autres, évidemment, poupée d'étagère et rien de plus. En la regardant, je me disais même que Chrysanthème, apparaissant à cette même place avec cette robe, cet éclairage et ce nimbe de soleil, eût produit un effet aussi charmant. Car elle est gentille, Chrysanthème, ce n'est plus contestable. Hier au soir, je me rappelle, je l'ai admirée. C'était la nuit. Nous revenions, avec l'escorte des petits ménages par exonautre, de la tournée habituelle dans les maisons de thé et les bazars. tandis que les autres mousmets marchaient en se donnant la main, parés de pompons d'argent tout neufs qu'elle venait de se faire offrir, et s'amusant avec des jouets, elle, soi-disant fatiguée, suivait à demi étendue dans une voiture de djinn. Nous avions mis à ses côtés de gros bouquets en gerbe destinés à remplir aujourd'hui nos vases, des iris tardifs et des lotus à longues tiges, les derniers de la saison qui déjà sentaient l'automne. Et c'était joli, cette japonaise, dans son petit char, nonchalante, au milieu de ses fleurs d'eau, éclairée en couleurs changeantes au hasard des lanternes qui nous croisaient. La veille de mon arrivée au Japon, si on me l'eût montré en me disant « Ta mousmé, là, sera celle qui passe », j'en aurais été charmé, sans aucun doute. Dans la réalité, non, cependant je ne le suis pas. Ce n'est que Chrysanthème, toujours elle, rien qu'elle, la petite créature pour rire, mièvre de forme et de pensée, que l'agence kangourou m'a fournie. Dans notre logis, l'eau pour boire, pour préparer le thé et faire les petites ablutions courantes, se tient dans des cuves de porcelaine blanche, ornées de peintures représentant des poissons bleus qu'un courant rapide entraîne au milieu d'algues affolées. Et ces cuves résident, pour plus de fraîcheur, en plein vent, sur le toit de Madame Prune, un point qu'il est facile d'atteindre en allongeant le bras du haut de notre balcon saillant. Une vraie aubaine pour les chats altérés du voisinage. Pendant les belles nuits d'été, ce coin de toit où sont nos cuves peinturlurées devient pour eux un lieu de rendez-vous charmant au clair de lune, après les entreprises galantes ou les longues rêveries solitaires aux fêtes des murs. J'avais cru devoir en avertir Yves la première fois qu'il voulut boire de cette eau-là. « Oh, répondit-il étonné, des chats, vous dites, est-ce que c'est sale, ça ?» Sur ce point, nous sommes d'accord avec lui, Chrysanthème et moi. Nous trouvons que les chats ne sont pas des bêtes à babines malpropres, et il nous est indifférent de boire après eux. Pour Yves, Chrysanthème non plus, ça n'est pas sale, et il boit volontiers dans sa petite tasse après elle, la classant, sous le rapport des babines, dans la catégorie des chats. Eh bien, ces cuves en porcelaine sont un des grands soucis quotidiens de notre ménage. Jamais d'eau là-dedans, le soir, quand nous rentrons de la promenade, après cette montée qui nous a donné soif, et après ces gaufres de Madame Leur, que nous avons mangées en manière de passe-temps tout le long de la route. Impossible d'obtenir que Madame Prune ou Mademoiselle Oyuki ou leur jeune servante, Mademoiselle Dédé, aient la prévoyance de remplir cela pendant qu'il fait jour. Et, quand nous rentrons tard, ces trois dames sont endormies. Nous voilà obligés de vaquer à ce soin, nous-mêmes. Donc il faut rouvrir toutes les portes fermées, se rehausser et descendre dans le jardin puiser de l'eau. Et comme Chrysanthème mourrait de peur toute seule dans ses arbres au milieu de l'obscurité et des musiques d'insectes, je me vois forcé d'aller au puits avec elle. Pour cette entreprise, nous avons besoin de lumière. Cherchons donc dans la collection de ces lanternes achetées chez Madame très propre, qui s'entassent de nuit en nuit au fond d'une de nos petites armoires en papier. Pas une dont la bougie ne soit consumée. Mais m'y attendais. Allons, il s'agit de prendre résolument la première venue et de planter une bougie neuve sur la pointe de fer qui se dresse au fond. Chrysanthème y met toute sa force. La bougie se fend, éclate. La mousmée se pique les doigts, fait la moue et pleurniche. Scène inévitable de tous les soirs, qui retarde d'un bon quart d'heure notre coucher sous le temps de l'œil de gaz bleu sombre, tandis que les cigales du toit nous font là-haut leur plus moqueuse musique. Et tout cela, qui m'amuserait avec une autre, avec une autre que j'aimerais. Avec elle, m'impatiente bien. Septembre. 8 jours viennent de passer assez paisibles, durant lesquels je n'ai rien écrit. Je crois que peu à peu je me fais à mon intérieur japonais, aux étrangetés de la langue, des costumes, des visages. Depuis 3 semaines, les lettres d'Europe égarées je ne sais où n'arrivent plus, et cela contribue, comme toujours, à jeter un léger voile d'oubli sur les choses passées. Donc, chaque soir, je monte au logis, fidèlement, tantôt par les belles nuits pleines d'étoiles, tantôt sous les ondées d'orage. Et chaque matin, quand la prière chantée de Madame Prune prend son vol dans l'air sonore, je m'éveille et je redescends vers la mer, par ces sentiers où l'herbe est pleine de rosées fraîches. La recherche des bibelots est, je crois, la plus grande distraction de ce pays japonais. Dans les petites boutiques des antiquaires, on s'assied sur des nattes pour prendre une tasse de thé avec les marchands, puis on fouille soi-même dans des armoires, dans des coffres, où sont entassées les vieilleries bien extravagantes. Les marchés, très discutés, durent souvent plusieurs jours, et se traitent en riant comme de gentilles petites farces que l'on voudrait se jouer les uns aux autres. J'abuse vraiment de l'adjectif « petit », je m'en aperçois bien, mais comment faire ? En décrivant les choses de ce pays, on est tenté de l'employer 10 fois par ligne. Petit, mièvre, mignard, le Japon physique et moral tient tout entier dans ces 3 mots-là. Et ce que j'achète s'amoncelle là-haut dans ma maisonnette de bois et de papier. Elle était bien plus japonaise pourtant dans sa nudité première, telle que Monsieur Sucre et Madame Prune l'avaient conçue. Il y a maintenant plusieurs lampes de forme religieuse qui descendent du plafond, beaucoup d'escabeaux et beaucoup de vases, des dieux et des déesses, autant que dans une pagode. Il y a même un petit hôtel shintoïste, devant lequel Madame Prune n'a pu se tenir de tomber en prière et de chanter, avec son tremblement de vieille chèvre, « Lavez-moi très blanchement de mes péchés, ô Amaterasu Mikami, comme on lave les choses impures dans la rivière de Kamo. Pauvre Amaterasu Mikami, lavez les impuretés de Madame Prune. » Quelle besogne longue et ingrate! Chrysanthème, qui est bouddhiste, prie quelquefois le soir avant de se coucher, tandis que le sommeil l'accable. Elle prie en claquant des mains devant la plus grande de nos idoles dorées. Mais son sourire, qui revient après, semble une moquerie d'enfant à l'adresse du Bouddha, dès que la prière est finie. Je sais aussi qu'elle vénère ses otokés, les esprits de ses ancêtres, dont l'hôtel assez somptueux est chez Madame Renoncule, sa mère. Elle leur demande des bénédictions, la fortune, la sagesse. Qui pourrait démêler quelles sont ses idées sur les dieux et sur la mort? A-t-elle une âme? Pense-t-elle en avoir une? Sa religion est un ténébreux chaos de théogonie, vieille comme le monde, conservée par respect pour les choses très anciennes, et d'idées plus récentes sur le bienheureux néant final, apporté de l'Inde à l'époque de notre Moyen-Âge par de saints missionnaires chinois. Les bonzes eux-mêmes s'y perdent. Et alors, que peut devenir tout cela, greffé d'enfantillage et de légèreté d'oiseau, dans la tête d'une mousse, mais qui s'endort. 2 choses insignifiantes m'ont quelque peu attaché à elle. Il est bien difficile que le lien ne se resserre pas à la longue. Ceci d'abord. Madame Prune, une fois, était allée nous chercher une relique de sa galante jeunesse, un peigne en écaille blonde d'une transparence rare. Un de ces peignes qu'il est bon de bon ton de poser au sommet des coques de cheveux à peine enfoncés les dents toutes dehors comme en équilibre. L'ayant retiré d'une jolie boîte en laque, elle le levait du bout des doigts à la hauteur de ses yeux, en clignant afin de regarder le ciel au travers, le beau ciel d'été, comme on fait pour vérifier l'eau des pierres précieuses. « Voilà, me disait-elle, la pièce de prix que tu devrais offrir à ta femme. » Et ma mousmée, très captivée, admirait combien la substance de ce peigne était limpide, combien la forme en était gracieuse. Ce qui me plaisait le plus à moi, c'était la boîte en laque. Sur le couvercle, une étonnante peinture, or sur or, représentait une vue prise de très près à la surface d'un champ de riz par un jour de grand vent. Un fouillis d'épis et d'herbages couchés et tordus par quelques rafales terribles. Ça et là, entre les tiges tourmentées, on apercevait la terre boueuse de la rivière. Il y avait même des petites flaques d'eau qui étaient des parties de lacs transparentes dans lesquelles d'infimes parcelles d'or semblaient flotter comme des fétus dans un liquide trouble. Deux ou trois insectes, qu'il eût fallu un microscope pour bien voir, se cramponnaient à des roseaux avec des airs d'épouvante, et le tableau tout entier n'était pas grand comme une main de femme. Quant au peigne de Madame Prune, en lui-même, il ne me disait rien, je l'avoue, et je faisais la sourde oreille, le trouvant bien insignifiant et bien cher. Alors Chrysanthème tristement répondit « Non, merci, je n'en veux pas. Remportez-le, chère madame. » Et en même temps, elle poussa un gros soupir assez réussi qui signifiait « Bon, il ne m'aime déjà pas tant que cela. Inutile de le tourmenter. » Tout de suite, j'ai fait l'emplette désirée. Plus tard, quand Chrysanthème sera devenue une vieille guenon, comme Madame Prune, avec des dents noires et de la dévotion, son tour arrivera de brocanter la chose à quelque belle d'une génération à venir. Une autre fois, j'avais pris mal de tête au soleil et j'étais étendu par terre, reposant sur mon oreiller en peau de couleuvre. Les yeux troublés, je voyais tourner comme en une ronde la véranda ouverte, le grand ciel lumineux du soir où planaient des cerfs-volants étranges, et il me semblait que je vibrais doucement à ce bruit cadencé des cigales qui remplissaient l'air. Elle, accroupie près de moi, essayait de me guérir par un procédé japonais en m'appuyant de toutes ses forces ses petits pouces sur les tempes et en les faisant tourner comme pour les y enfoncer par un mouvement de vrille. Elle était devenue toute rouge à ce travail fatigant, et il me causait un réel bien-être, quelque chose comme une griserie douce d'opium. Ensuite, inquiète, pensant que j'allais peut-être avoir la fièvre, elle voulut me faire manger, rouler en boulettes entre ses doigts, une efficace prière écrite sur papier de riz, qu'elle conservait précieusement dans la doublure d'une de ses manches. Eh bien, j'ai avalé cette prière sans rire pour ne pas la blesser, pour ne pas ébranler sa petite croyance drôle. Nous sommes allés aujourd'hui chez le photographe en renom, Yves, ma mousmée et moi, afin de poser en groupe. Nous enverrons cela en France. Yves sourit déjà en songeant à l'étonnement de sa femme quand elle apercevra ce minois de chrysanthème entre nous deux, et il se demande ce qu'il pourra bien lui conter en matière d'explication. Bon, mon Dieu, je dirais que c'est une de vos connaissances, voilà tout. Au Japon, il y a des photographes dans le genre des nôtres, seulement ce sont des Japonais habitant des maisons japonaises. Celui qui aura l'honneur aujourd'hui opère au fond de sa banlieue, dans ce quartier antique de grands arbres et de pagodes sombres où j'avais rencontré l'autre jour une mousmée si jolie. Son enseigne se lit en plusieurs langues, plaquée sur un mur au bord de ce petit torrent qui descend de la verte montagne, traversé par des ponts courbes en granit séculaire et bordée de bambous légers ou de lauriers roses en fleurs. Cela étonne et cela déroute un photographe niché là, dans tout ce Japon d'autrefois. Précisément, on fait queue à sa porte aujourd'hui, nous tombons mal. Il y a toute une file de chars à djinns qui stationnent attendant des clients qu'ils ont amenés et qui passeront avant nous. Les coureurs, nus et tatoués, peignés correctement en bandeaux et en chignons, font la causette, fument des petites pipes ou rafraîchissent dans l'eau du torrent leurs jambes musculeuses. La cour d'entrée est une irréprochable japonnerie avec des lanternes et des arbres nains. Mais l'atelier où l'on pose pourrait être aussi bien à Paris ou à Pontoise. Même chaises en vieux chêne, même poufs défraîchis, colonnes en plâtre et rochers en carton. Les personnes que l'on opère en ce moment sont deux dames de qualité, la mère et la fille, cela se devine, qui posent ensemble en carte-album avec des accessoires Louis XV. Les premières grandes dames de ce pays que j'ai vues de si près, un groupe bien étrange, longue figure de la classe noble, atone, anémique, bleuâtre à force de poudre de riz, avec la bouche peinte en forme de cœur au carmin pur. Du reste, une distinction incontestable, qui s'impose même à nous, malgré la différence profonde des races et des notions acquises. Elle toise chrysanthème avec un air assez visible de dédain, bien que sa toilette soit aussi comme il faut que les leurs. Et moi, je ne puis me rassasier de regarder ces deux créatures. Elles me captivent comme des choses jamais vues et incompréhensibles. Leurs corps frêles, posés avec une grâce exotique, sont noyés dans des étoffes rigides et des ceintures bouffantes dont les bouts retombent comme des ailes fatiguées. Elles me font penser, je ne sais pourquoi, à de grands insectes rares. Sur leurs vêtements, des dessins extraordinaires ont quelque chose de la bigarrure sombre des papillons nocturnes. Surtout, il y a le mystère de leurs tout petits yeux, tirés, bridés, retroussés, pouvant à peine s'ouvrir. Le mystère de leur expression qui semble indiquer des pensées intérieures d'une saugrenuité vague et froide, un monde d'idées absolument fermé pour nous. Et je songe en les dévisageant, comme nous sommes loin de ce peuple japonais, comme nous sommes de races dissemblables. Il faut laisser passer ensuite plusieurs matelots anglais arrivés avant nous, bien pomponnés dans leurs vêtements de toile blanche, bien frais, bien gras, bien roses, comme des bons hommes en sucre, qui posent avec des airs niais sur des fûts de colonne. Notre tour vient enfin. Chrysanthème s'arrange avec lenteur, d'une manière très cherchée, tournant le plus possible les pointes de ses pieds en dedans à la façon élégante. Et sur le cliché qu'on nous montre, nous avons l'air d'une petite famille bien ridicule, aligné devant un photographe de foire. Septembre. Yves est libre ce soir, 3 heures plus tôt que moi, ce qui arrive de temps en temps d'après la façon dont notre service de car est organisé. Ces jours-là, il descend à terre le premier et s'en va m'attendre à Dieu-Genji. Avec une longue vue, je l'observe du bord, grimpant dans les sentiers verts de la montagne. Il marche d'un pas très alerte, courant presque, comme il paraît pressé d'aller retrouver cette petite chrysanthème. Vers 9 heures, quand j'arrive, je le vois assis par terre, au milieu de mon appartement, le torse nu, ce qui est ici une tenue d'intérieur suffisamment correcte, j'en conviens. Et autour de lui, Chrysanthème, Oyuki, Mademoiselle Dédé, la servante, s'empressant à lui essuyer le dos avec des petites serviettes bleues peinturlurées de cigogne et de sujets drôlatiques. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour avoir si chaud, pour s'être mis dans un état pareil? Il me raconte que près de chez nous, un peu plus haut dans la montagne, il a découvert un tir au sabre et qu'il y a livré assaut jusqu'à la nuit close, contre des Japonais qui tiraient à deux mains en bondissant comme des chats suivant l'usage de leur pays. Avec son escrime française, il les a battus à plate couture. Alors on lui a fait de grands saluts, de grands honneurs, et apporté une quantité de bonnes petites choses, très froides à boire. Tout cela réuni l'a fait transpirer beaucoup. Ah, très bien. Mais je ne m'expliquais pas. Il est ravi de sa soirée. Il ira tous les jours s'amuser à les battre. Il pense même faire des élèves. Une fois l'assèchement de son dos terminé, les voilà tous ensemble, les trois mousmets et lui, jouant au pigeon-vol nippon. En vérité, je ne pouvais rien souhaiter de plus innocent, de mieux sous tous les rapports. Charles Haine et Madame Jonquille, sa femme, nous arrivent inopinément vers 10 heures. Ils s'égaraient dans nos parages sous les bosquets noirs et sont montés, voyant de la lumière chez nous. Leur intention est d'aller finir leur soirée à la maison de thé des crapauds, et ils veulent nous entraîner avec eux pour prendre des sorbets là-bas. C'est au moins à 1 heure d'ici, cette maison de thé de l'autre côté de la ville, à mi-montagne, dans les jardins de la grande pagode de Sueva. Mais ils tiennent à leur idée quand même, prétendant que par cette nuit pure et ce clair de lune, on doit avoir de la terrasse du temple une vue très jolie. Très jolie, je ne dis pas, mais nous allions nous coucher, nous. Enfin, soit, partons, suivons-les. Nous louons 5 djinns et 5 chars en bas dans la grande rue, devant chez Madame très propre, qui nous choisit pour cette expédition tardive des lanternes énormes et toutes rondes, de gros ballons rouges ornés de méduses, d'algues et de requins verts. Il est près de 11 heures quand nous nous mettons en route. Dans les quartiers du centre, les bons nippons ferment déjà leurs petites échoppes, éteignent leurs lampes, tirent leurs panneaux de bois, poussent leurs châssis de papier. Et plus loin, dans les antiques rues de la banlieue, tout est clos depuis longtemps. Nos chars roulent dans la nuit très noire. Nous crions à notre djinn « Ayaku, Ayaku !» Vite, vite. Et ils courent à toutes jambes en poussant de petits hurlements comme des bêtes joyeuses emballées par gaieté. Dans l'obscurité, nous allons un train de tempête à la file indienne, tous les 5, cahotés furieusement sur les vieilles dalles disjointes que nos ballons rouges éclairent mal en s'agitant toujours à l'extrémité de leurs tiges en bambou. De temps à autre, quelques nippons, coiffés de nuit en mouchoir bleu, ouvrent une fenêtre pour regarder quels sont ces écervelés qui se promènent si vite et si tard en faisant tout ce bruit. Ou bien une lueur que nous jetons en passant nous montre le rire atroce d'un des gosses bêtes en pierre assis aux portes des pagodes. Enfin, nous arrivons au pied de ce temple d'Osueva, et laissant nos djinns avec nos petits chars, nous commençons à monter les escaliers de géants complètement déserts cette nuit. Chrysanthème, qui fait toujours un peu la petite fille fatiguée, l'enfant gâté et triste, monte avec lenteur entre Yves et moi, s'appuyant sur nos bras. Jonquille, au contraire, grimpe en sautillant comme un oiseau et compte pour s'amuser les marches interminables. Itots, Ftats, Mits, Yots, 1, 2, 3, 4, dit-elle en s'élevant par une série de petits bonds légers. Itsuts, Muts, Nanats, Yets, Kokonots, 5, 6, 7, 8, 9. Et elle appuie bien fort sur les accents circonflexes comme pour rendre ses nombres encore plus drôles. Sur son beau chignon noir brille un petit plumet d'argent. Sa silhouette est fine, gracieuse et d'une extrême étrangeté. Dans la nuit où nous sommes, on ne voit pas que sa figure est presque laide et sans yeux. Vraiment, on dirait des petites fées, chrysanthèmes et jonquilles, ce soir. Les moindres japonaises, à certains moments, prennent de ces airs-là, fort de bizarreries élégantes et d'ingénieux arrangements. L'escalier de granit, vide, immense, uniformément gris, sous le ciel nocturne, paraît fuir en hauteur devant nous, et en profondeur par derrière, quand on se retourne, en profondeur en dégringolade vertigineuse. Sur les degrés de cette pente s'allongent démesurées les ombres noires des portiques religieux par lesquels il nous faut passer. Et ces ombres, qui semblent se casser au ressaut de chaque marche, ont sur toute leur étendue des plissures régulières d'éventail. Les portiques se dressent isolément, s'étagent les uns au-dessus des autres. Leurs formes étonnantes sont à la fois d'une simplicité extrême et d'une recherche rare. Ils se dessinent avec une honnêteté dure, et cependant ils ont ce vague de vision que prennent les objets très grands à la lueur lunaire. Leurs architraves courbes se relèvent aux extrémités en deux cornes inquiétantes, tendues vers la voûte lointaine et bleuâtre où scintillent les étoiles. Ils ont l'air de vouloir communiquer aux dieux, par ces pointes, les choses que leur basse profonde entend dans la terre d'alentour, remplie de sépulcres et de morts. Nous sommes un tout petit groupe, nous, perdus maintenant au milieu de cette montée colossale. Nous cheminons, éclairés moitié par la lune pâle qui est en haut, moitié par les lanternes rouges qui sont dans nos mains et qui se balancent toujours au bout de leurs longues tiges. Il se fait un grand silence dans ces abords du temple. Même les bruits d'insectes se taisent à mesure que nous nous élevons. Une sorte de recueillement, de demi-crainte religieuse nous gagne peu à peu, en même temps qu'une plus grande fraîcheur se répand dans l'air et nous saisit. En haut, dans la cour sacrée où résident le cheval de jade et les tourelles de porcelaine, nous nous sentons intimidés en entrant. Il est fait plus sombre à cause des murs. Et notre arrivée semble déranger je ne sais quel conciliabule mystique tenu entre les esprits de l'air et les symboles visibles qui sont là, chimères et monstres, éclairés au reflet bleu de la lune. Nous tournons à gauche et nous pénétrons dans les jardins en terrasse pour nous rendre à cette maison de thé des crapauds qui est notre but cette nuit. Nous la trouvons fermée. Je m'y attendais. Fermée et noire à une heure pareille. À la porte, nous tambourinons tous ensemble, nous appelons par leur nom, avec les intonations les plus câlines, toutes les mousmets de service que nous connaissons bien, mesdemoiselles transparentes, étoiles, rosées matinales et marguerites reines. Personne. Adieu les sorbets au parfum et les haricots à la grêle. Devant la maisonnette du tir à l'arc, nos mousmets font un saut de côté très effrayé, annonçant qu'il y a un cadavre par terre. En effet, quelqu'un est là, étendu. Nous examinons timidement la situation à la lueur de nos ballons rouges, tenus à toute longueur de tige par peur de se mordre. C'est simplement le vieux gardien du tir, celui qui, le jour du 14 juillet, choisissait de si belles flèches pour chrysanthème. Et il dort, ce bonhomme, le chignon un peu défait, mais d'un bon sommeil, qu'il serait cruel de troubler. Allons au bord de la terrasse, contempler la rade sous nos pieds, et puis nous rentrerons chez nous. La rade cette nuit est une grande déchirure, sombre et sinistre, où les rayons de la lune ne descendent pas, une crevasse béante qui semble ouverte jusqu'aux entrailles de la terre et au fond de laquelle brûle, tout petit comme une réunion de vers luisants dans une fosse, les feux des navires. Le milieu de la nuit, 2 heures du matin. Nos veilleuses brûlant toujours un peu mourantes devant nos idoles tranquilles. Chrysanthème me réveille brusquement et je la regarde. Elle est dressée sur son bras tendu et sa figure exprime une intense terreur. Muette, elle me fait signe sans oser parler que quelqu'un s'approche ou quelque chose en rampant. Quelle visite sinistre est-ce donc ? Cela me fait peur, moi aussi. J'ai l'impression rapide de quelque immense danger inconnu, dans ce lieu isolé, dans ce pays dont je n'ai pas pu approfondir encore les êtres et les mystères. Il faut que ce soit bien affreux pour qu'elle demeure là, clouée, à demi morte de frayeur, elle qui sait. C'est dehors, paraît-il. Cela arrive par les jardins. De sa main tremblante, elle indique que cela va monter par la véranda, par le toit de Madame Prune. En effet, on entend de légers bruits qui s'approchent. J'essaie de lui dire « Nicholson ? Enfin, ce sont messieurs les chats ?»« Non, fait-elle, toujours terrifiée et inquiétante. Bakemono-sama ? Mes seigneurs les revenants ? J'ai déjà pris l'habitude au Japon de m'exprimer avec cette excessive politesse. Non, Dorobo, les voleurs. Les voleurs, ah, tant mieux, je préfère de beaucoup cela, par exemple, à une visite d'esprit ou de mort, comme je l'avais craint tout à l'heure, au sursaut de mon réveil. Des voleurs, c'est-à-dire des bons hommes bien en vie, ayant sans doute, en tant que japonais, des figures assez drôlatiques. Je n'ai même plus peur du tout à présent que je suis fixé, et nous allons tout de suite vérifier la chose, car il est certain que l'on remue sur le toit de Madame Prune. On s'y promène. J'ouvre un de nos panneaux de bois et je regarde. Je ne vois rien qu'une grande étendue calme, sereine, exquise, éclairée en plein par la lune brillante. Tout ce Japon endormi au chant sonore des cigales est bien charmant cette nuit, et ce grand air du dehors est bien suave à respirer. Chrysanthème, à moitié cachée derrière mon épaule, écoute, tremblante, avance la tête pour examiner les jardins et les toits avec des yeux dilatés de chat effrayé. Non, rien, rien qui bouge. Ça et là, quelques ombres dures qu'on ne s'explique pas bien au premier coup d'œil, mais qui sont projetées par des pans de murs, des branches d'arbres et gardent une immobilité absolue très rassurante. Tout semble d'une tranquillité figée et demeure silencieux dans ce vague que la lune met sur les choses. Rien, rien nulle part. C'était messieurs les chats, tout simplement, ou bien mesdames les chouettes. Les bruits grandissent d'une manière si extraordinaire la nuit, chez nous. Refermons ce panneau avec soin, par mesure de prudence, et puis allumons une lanterne et descendons voir s'il n'y a personne de caché dans des coins, si les portes sont bien closes. Et pour assurer Chrysanthème, faisons une ronde générale du logis. Nous voilà donc, parcourant ensemble, sur la pointe des pieds, toutes les retraites intimes de cette maison qui, en jugée par ses bases, doit être bien antique malgré ses cloisons légères en papier frais. Des renfoncements tout noirs, des petits caveaux voûtés de poutres vermoulues, des armoires pour le riz qui sentent la vétusté et la moisissure, des dessous très mystérieux où s'est amoncelée la poussière des siècles. En pleine nuit, pendant une chasse aux voleurs, tout cela, que je ne connaissais pas, mauvais aspect. À pas de loup, nous traversons l'appartement de nos propriétaires. C'est Chrysanthème qui m'entraîne par la main, et je me laisse conduire. Ils dorment en rang sous leur tente de gaz bleuâtre, éclairée par les veilleuses qui brûlent devant l'autel de leurs ancêtres. Tiens, Ils sont alignés dans un ordre qui pourrait prêter à jaser, par exemple. Mademoiselle Oyuki, d'abord, très gentille dans sa pose de sommeil. Ensuite, Madame Prune, qui dort la bouche ouverte, montrant son râtelier noir. De son gosier sort un bruit intermittent, pareil au grognement d'une truie. Oh, qu'elle est vilaine, Madame Prune. Et puis Monsieur Sucre, momifié pour l'instant. Et enfin, à son côté, derrière de la rangée, leur bonne, Mademoiselle Dédé. La gaze tendue jette sur eux des reflets couleur d'eau marine. On dirait des personnes noyées dans un aquarium. Et ces saintes veilleuses, cet autel armé d'étranges symboles shintoïstes, donnent un faux air religieux à ce tableau de famille. Oni soit qui mal y pense, mais pourquoi n'est-elle pas plutôt couchée à côté de ses maîtresses, cette jeune servante ? Chez nous, là-haut, quand nous offrons l'hospitalité à Yves, nous avons soin de nous placer sous notre moustiquaire d'une façon bien plus correcte. Un recoin que nous allons visiter en dernier lieu m'inspire une certaine appréhension. C'est une soupente basse et mystérieuse, contre la porte de laquelle est collée comme chose perdue une très vieille image de piété. Quanon aux mille brues et Quanon à tête de cheval, assis dans des nuages et des flammes, horribles tous deux avec leur rire de spectre. Nous ouvrons, et Chrysanthème se rejette en arrière, poussant un cri affreux. Oh, j'aurais cru que les voleurs étaient là, si je n'avais vu passer sur elle et disparaître une petite chose grisâtre, rapide, furtive. Un jeune rat qui mangeait du riz en haut d'une étagère et qui, dans son effarement, lui avait sauté à la figure. 14 septembre. Yves a perdu à la mer son sifflet d'argent, son indispensable sifflet pour la manœuvre, et nous courons la ville toute la journée, suivis de Chrysanthème, de Mesdemoiselles la Neige et la Lune, ses sœurs, pour en chercher un autre. C'est très difficile à trouver en Nagasaki. Très difficile, surtout à expliquer en japonais un sifflet de marine de forme consacrée, courbe, avec une petite boule terminale pour moduler les trilles et les sons enflés des commandements officiels. 3 heures durant, on nous renvoie de boutique en boutique. Faisant mine d'avoir très bien saisi, on nous trace au pinceau sur papier de soie des adresses de magasins où nous devons infailliblement rencontrer ce qu'il nous faut. Et nous partons plein d'espoir, courant à une mystification nouvelle, nos jeans essoufflés en paire de la tête. On comprend bien que nous voulons quelque chose pour produire du bruit, de la musique, alors on nous offre des instruments de toutes les formes, les plus inattendus, les plus extraordinaires, des pratiques pour voix de polichinelle, des sifflets pour chiens, des trompettes. C'est toujours de plus en plus inouï ce qu'on nous propose, tellement qu'à la fin, un fou rire nous gagne. En dernier lieu, un vieil opticien nippon, qui avait pris un air très fin, un air de parfaite compétence, s'en va fouiller dans son arrière-boutique et nous rapporte une sirène à vapeur provenant d'un paquebot naufragé. Après dîner, l'événement considérable de la soirée est une averse de déluge qui nous surprend aux sorties des maisons de thé et au retour de notre promenade élégante. Justement, nous étions en troupe nombreuse, ayant avec nous plusieurs mousmets invités, et dès que cela commence à tomber du ciel sans préambule, comme d'un arrosoir renversé, il en résulte une immédiate débandade. Elles se sauvent, les mousmets, avec des petits cris d'oiseaux, se réfugient dans des portes chez les marchandes sous des capotes de jeans. Puis bientôt, quand les boutiques se sont fermées en hâte, quand la rue est vide, inondée, presque noire, les lanternes de papier détrempées, piteuses, éteintes, je me retrouve, je ne sais comment, plaqué contre un mur, sous la saillie d'un toit dans la seule compagnie de Mademoiselle Fraise, ma cousine, qui pleure à cause de sa belle robe mouillée. Et cette ville me paraît tout à coup d'une tristesse lugubre, au bruit de la pluie qui tombe toujours, éclaboussant tout, au bruit des gouttières qui font dans l'obscurité des petits murmures plaintifs de ruisseaux. Très vite, fini l'ondée. Alors les mousmets sortent de leurs trous comme des souris, se cherchent, se hêlent, et leurs petites voix ont des intonations traînantes, mélancoliques, singulières, qu'elles prennent chaque fois qu'il s'agit d'appeler dans le lointain. « Ohé, mademoiselle la lune ! Ohé, mademoiselle Jonquille !» Elles se crient les unes aux autres leurs noms bizarres, et les prolongent indéfiniment dans la nuit devenue silencieuse, dans la sonorité qu'a prise l'air humide après cette grande pluie d'été. Enfin, les voilà toutes retrouvées, réunies, ces petites personnes à yeux bridés, dépourvues de cervelle, et nous remontons à Dujinji, très mouillés tous. Pour la troisième fois, Yves couche à nos côtés, sous notre tente bleue. Un grand tapage se fait au-dessous de nous, passé minuit. Ce sont nos propriétaires qui reviennent d'un pèlerinage à un temple lointain de la déesse de la grâce. Bien que shintoïste, Madame Prune vénère cette divinité qui, dit-on, fut bienveillante à sa jeunesse. Tout aussitôt, nous voyons monter comme une fusée Mademoiselle Oyuki, apportant sur un délicieux petit plateau des bonbons bénis, achetés là-bas aux portes de ce temple à notre intention, et qu'il faut manger tout de suite avant que la vertu en soit éventée. Sans sortir d'un demi-sommeil, nous absorbons ces petites choses au sucre et au poivre en remerciant beaucoup. Yves dort tranquille, sans donner cette fois des coups de poing dans le plancher ni des coups de pied. Il a suspendu sa montre à l'une des mains de notre idole dorée pour être plus sûr de voir toute la nuit l'heure qu'il est à la lumière de la sainte veilleuse. Il se lève de grand matin demandant « J'ai été sage ?» et s'habille en hâte, préoccupé par l'appel et par le service. Dehors, il doit déjà faire jour. Par ces petits trous que le temps a percés dans nos panneaux de bois, des jets de clarté matinale entrent chez nous. Dans l'air de notre chambre, où nous conservons de la nuit enfermée, ils tracent de vagues rayures blanches. Tout à l'heure, quand le soleil se lèvera, ces rayures vont s'allonger et devenir d'une belle couleur d'or. On entend les cigales et les coqs, et bientôt Madame Prune commencera son chant mystique. Cependant, Chrysanthème, par politesse pour Yves San, allume une lanterne et le reconduit en tunique de nuit jusqu'au bas de l'escalier sombre. Il me semble même entendre qu'en se quittant, ils s'embrassent. Au Japon, c'est sans conséquence, je le sais bien. Cela se fait beaucoup, c'est très reçu. N'importe où, dans les maisons où l'on entre pour la première fois, on embrasse très bien des mousmets quelconques sans que personne y trouve à redire. Mais c'est égal, Yves est vis-à-vis de Chrysanthème dans une situation particulière et il devrait mieux le comprendre. Je m'inquiète des heures qu'ils ont souvent passées au logis, seuls ensemble. Je me dis qu'aujourd'hui même, je vais non pas les épier, mais parler à Yves bien franchement pour en avoir le cœur net. En bas, tout à coup, clac, clac, le battement de deux mains sèches, c'est l'avertissement de Madame Prune au grand esprit. Et tout aussitôt, sa prière éclate, s'élance, en fossé nasillard, suraigu comme par la sonnerie irritante et inexorable d'un réveil matin, quand l'heure est venue, comme se fait le bruit machinal d'un ressort qu'on lâche et qui se déroule. La plus riche femme du monde, très blanchement de mes impuretés, ô Anna Terani Kami, dans la rivière de Kamo. Et ce chevrotement étrange, plus du tout humain, égare et change mes idées qui étaient presque claires à cet instant de réveil.